Sixième partie. Gravity. Chapitre 28. Nabila. Je m'appelle Nabila. J'ai 33 ans, deux petits frères, des parents que j'adore, beaucoup d'amis, un bac scientifique mentionné très bien avec félicitations du jury, un doctorat de l'École normale supérieure de Lyon, un post-doctorat réalisé à l'Imperial College à Londres, un job envié et convoité de chercheuse au CNRS, un appartement à deux pas du Vieux-Port de Marseille, un physique pas trop désagréable, un accent qui chante, un cancer. Et voilà, vous n'avez retenu que le dernier mot. Ce mot que j'ai rencontré pour la première fois alors que je n'avais pas 26 ans. C'est tôt 26 ans pour perdre sa féminité. Moi, je ne fais jamais les choses à moitié. Alors, quitte à avoir un cancer, j'en ai eu un bien corsé. Résultat des courses, une double mastectomie, l'impression d'avoir 3 tonnes sur le thorax pendant 1 mois, et des seins siliconés qui donnent aux gens cette fausse impression. Tout le monde pense que je suis une fille superficielle, à la poitrine refaite, parce qu'elle n'était pas assez à mon goût ou à celui des hommes. Les gens ne savent rien de la vie des autres. Ils se perdent en conjectures et hypothèses, mais la vérité est rarement aussi simple qu'il n'y paraît. Moi, je les aimais, mes seins. J'imaginais qu'un jour, ils nourriraient mes enfants. Je les trouvais pile de la bonne taille. C'est rare, une femme satisfaite de ses seins. Et pourtant, c'était mon cas. Pas de bol, quoi. Que l'on me prenne pour une cagole ne me dérange pas. Au contraire, ça détourne l'attention. Avec ces prothèses, mon âge et mon prénom, personne ne pense que j'ai pu traverser une telle épreuve. Et tant mieux. J'ai toujours préféré faire envie que pitié. Depuis mes 26 ans, je suis donc suivie régulièrement d'un point de vue médical. Et au fil du temps, j'ai aménagé mon corps. J'entends par là que j'ai amélioré l'opération camouflage en me faisant tatouer sur les cicatrices résiduelles. Au départ, c'était purement utilitaire. Et puis, j'ai pris goût au tatouage. Si la médecine répare mon corps, j'ai l'impression que les tatouages, eux, répare mon âme. C'est comme ça, on trouve ça mystique où on peut. J'avais donc repris une vie normale. Je me projetais dans cet avenir qui en avait pris un sacré coup au mi-temps de ma vingtaine. J'étais en couple depuis 6 mois avec Gaëtan, un beau doctorant arrivé peu de temps auparavant dans la cité phocéenne. Je le charriais souvent le qualifiant d'immigré breton et ça nous faisait marrer. En avril, lorsque j'ai vu passer l'appel à candidature de l'ESA, je n'ai pas réfléchi, j'ai postulé. La lettre de motivation était une évidence. Comme pour beaucoup de candidats, l'espace était mon rêve d'enfant, inaccessible a priori étant donné mon milieu social et cette barre HLM des quartiers nord dans laquelle j'ai grandi. Lors de ma visite de contrôle type pilote, pour le dossier, j'étais en pleine forme. Alors, puisque j'avais du boulot par-dessus la tête au labo, je me suis dit que mon check-up annuel, entendre par là check-up spécial cancer, pouvait bien attendre quelques mois. C'était la première fois en 5 ans que je ne faisais pas mon contrôle à la date prévue. Lorsque j'ai débarqué dans le cabinet de mon oncologue en juillet, il m'a grondé comme une gamine pour ses 4 mois de retard. 4 petits mois, c'est rien du tout. Les résultats du contrôle sont arrivés. Et ma vie a basculé. Au début, je n'ai pas compris. Enfin, si, bien sûr. J'ai compris la récidive, la localisation, l'utérus cette fois-ci. J'ai compris l'avenir qui se brise, l'opération à venir, lourde physiquement, lourde moralement pour une femme de mon âge n'ayant pas d'enfant. J'ai compris les traitements qui épuisent et déplument. Mais je n'ai pas saisi tout de suite l'ampleur du problème. Parce que le médecin tournait autour des mots, évitait les plus durs, les trop clairs. Alors à force d'entendre ces circonlocutions, je ne les ai pas intégrées. Et puis il a bien fallu le prononcer ce mot qui change tout. Métastase. Lorsqu'enfin le mot a percuté mon cerveau, j'en ai eu le souffle coupé. Métastase, ça veut dire que le cancer a essaimé dans mon corps. Métastase, ça veut dire que mes cellules se multiplient trop vite à des endroits de plus en plus nombreux, de manière cachée, larvée, rampante. J'ai remercié le médecin, il n'y était pour rien dans tout ça. Il essayait même de me déculpabiliser en me disant que les 4 mois n'auraient pas changé les choses. Mais je n'y ai pas cru. Je m'en suis voulu. Je suis entrée dans une phase d'isolement volontaire. J'ai rompu avec mon beau breton sans rien lui donner des véritables raisons, et j'ai réfléchi 3 jours et 3 nuits. Je suis une scientifique, je manie très bien les probabilités. Alors j'ai très vite vu que c'était foutu. Dans une récidive comme la mienne, avec l'utérus, le foie et les os atteints, s'en sortir est mission impossible, d'autant que je ne suis pas Tom Cruise. J'ai étudié calmement les 2 possibilités qui s'offraient à moi. La première, c'était le choix du médical, avec opération, chimio, radiothérapie, et on recommence jusqu'à ce que le corps ne tienne plus. Je vivrai peut-être 1 an, mais enchaîné à l'hôpital. La seconde, c'était la voie impensable pour une cartésienne comme moi. Celle dont on essaierait toujours de me détourner, c'est bien normal. Et pourtant, je l'appelle la résignation positive. Je me résigne à mourir, mais je le fais en pleine conscience. Et cette pleine conscience du temps qui me reste impose une règle simple. Faire d'ici là tout ce dont j'ai envie. Vivre mes derniers mois à plein régime, sans restriction, sans penser au lendemain puisqu'il n'y en aura pas. Mon oncologue a vigoureusement désapprouvé. Il a tout tenté pour me faire changer d'avis. Mais ma décision était prise. J'ai rassemblé mon courage pour l'annoncer à mes parents et mes frères. Eux aussi ont cru que j'avais perdu la raison. J'entends encore les sanglots de ma mère résonner dans ma tête. Je sens encore l'étreinte de mon père. Les joues mouillées de mon frère Samy et son « Ça va aller, ma sœur, on est là !» maladroit, mais tellement touchant. Et puis le sourire triste, mais vrai, du plus jeune Ahmed, qui m'a confié à voix basse que lui aussi prendrait peut-être cette décision s'il se trouvait face au même choix impossible. Tout est gravé là. Je garde tout avec moi. J'emporte tout. Promis. En attendant, je vis. J'ai eu droit à un arrêt maladie de longue durée. Alors j'ai décidé de le mettre à profit. Je sais, moi, que la durée ne sera sans doute pas si longue. J'ai vendu mon appartement. Il me restait 15 ans à payer, mais j'avais déjà remboursé 30 000 euros. Bien suffisant pour mener à bien mes projets. Le premier, c'était d'emmener mes parents à Alger, sur les traces de notre famille, de mes racines. Je suis née en France. C'était la première fois que je mettais les pieds là-bas. La semaine sur place a été intense. Les couleurs, les odeurs, les bras de ma mère, son recueillement, la joie de mon père, la douceur de sa peau et cette vague odeur de cigarette qui traîne toujours sur ses vêtements. J'ai plus contemplé mes parents redécouvrant Alger que la ville blanche elle-même. Je dois bien l'avouer. Je me suis remplie d'eux. Je leur ai dit que je les aimais, qu'ils avaient été les meilleurs parents dont j'aurais pu rêver. Mon père a protesté et m'a rappelé à quel point il aurait voulu pouvoir me payer les dernières baskets à la mode lorsque j'étais adolescente, ou m'éviter de bosser au McDo pour financer mes études. Mais c'est comme ça que je me suis construite. Ma vie n'est pas la plus facile, mais c'est la mienne. Mes parents ne sont pas parfaits, mais ce sont les miens. Si c'était à refaire, je ne changerais rien. Enfin si, je supprimerais ce cancer. Je suis quand même pas la ravie de la crèche. Ensuite, je me suis offert une nuit dans un hôtel de luxe avec spa et massage. J'ai visité Londres et Berlin, dîné dans un restaurant étoilé, réalisé quelques fantasmes sexuels, et puis j'ai profité de la fin de l'été pour me baigner dans la Méditerranée pendant des heures. C'est là qu'est mon bonheur, depuis toujours. C'est là que j'aimerais finir ma vie, dans cette grande bleue que j'aime tant. J'avoue que j'avais complètement oublié cette histoire de candidature pour l'espace. Aussi, lorsque j'ai reçu ma convocation pour Hambourg, je me suis sentie flattée, bien sûr. Mais je me suis surtout dit que la vie ne manquait pas d'humour. J'ai jeté le mail dans la poubelle électronique et je suis passée à autre chose. Sauf qu'une idée n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Et si je tenais là ma grande aventure finale? Celle qui me flanquerait des frissons, des shoots d'adrénaline et d'endorphine, qui me pousserait à me dépasser une dernière fois et à vivre à fond jusqu'au bout. Alors voilà, j'ai contacté ces extraordinaires qui le sont vraiment, et puis je suis partie à Hambourg. Je n'ai pas parlé de ma maladie, c'était hors de question. Je n'avais aucune envie que cette saleté pollue mon rêve. J'ai joué mon rôle à la perfection, ou plutôt, j'ai été moi-même à la perfection. Je me suis fait de vrais amis, dont ma si chère Anna. Je m'en suis voulu de lui mentir. À plusieurs reprises, j'ai failli tout lui dire. Et puis je me suis ravisée. Elle apprendra bien assez tôt, et d'ici là, moi, je profite de son regard à la fois bienveillant et sans pitié. Elle rit à mes blagues débiles, sans arrière-pensée. Tout est naturel et c'est très bien comme ça. Le seul qui connaît mon état, c'est Côme. Je ne suis pas amoureuse de lui, non. Je crois que je me suis un peu attachée. Et lui aussi. Je savais que c'était de l'ordre du possible, alors, dès notre première nuit, je lui ai tout révélé en le suppliant de ne rien dire aux autres. Il a souhaité continuer à passer ses nuits avec moi, et ça n'est pas pour me déplaire car il est très doué, sexuellement parlant. On ne dirait pas à première vue, mais il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Je ne lui ai rien caché. Il sait que tout ça aura une fin, mais je crois que d'une certaine façon, cette relation l'a libéré. Avec moi, j'ai le sentiment qu'il s'autorise à être lui-même. Peut-être parce que je le regarde tel qu'il est, depuis la première minute. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tandis que je suis sur ce lit d'hôpital et qu'il dort à mes côtés dans un fauteuil inconfortable, je sais qu'il aura mal lorsque je partirai. Il me l'a dit tout à l'heure. Il ne me l'a pas dit de manière larmoyante, non. Il me l'a dit en ajoutant qu'il était heureux de faire ce petit bout de chemin avec moi, qu'il y aurait toujours une place pour moi dans son cœur. Je lui ai lancé qu'il était sacrément gnagnin, il a éclaté de rire, et nous nous sommes embrassés. Simple, voilà. Depuis l'ascension du volcan, j'ai des douleurs diffuses dans l'abdomen. Même si je ne veux pas qu'on me soigne, je suis d'accord pour qu'on me soulage. Faut quand même pas pousser la vieille au fond du puits. Quand Anna est arrivée à l'hôpital, elle s'est jetée dans mes bras et m'a serré fort. Elle ne pleurait pas, mais avait les yeux tout rouges. Alors, puisqu'avec elle non plus je ne veux pas tomber dans un pathos qui ne nous ressemble pas, je lui ai dit « Ça se voit que tu as appliqué la méthode, je pleure un bon coup avant d'aller la voir, hein ? Sinon c'est une conjonctivite, ou bien un herpès lacrymal. » Ça n'existe même pas. Dis plutôt que tu n'en as jamais vu, pas que ça n'existe pas. C'est quoi cette exploratrice à deux balles, Anna de Villers ? C'est-à-dire que je rêve d'espace, pas de maladie vénérienne des yeux. Tu veux parler de la fameuse chute pisse oculaire ? Ça y est, elle rit. On va pouvoir parler d'autre chose. Je lui demande de me raconter ses exploits de fond de cave, et quand elle me décrit sa baignade improvisée et sa remontée du corps de Diego en rappel, je n'y peux rien, je visualise. Et je ne peux pas m'empêcher de rire à mon tour. Ce que j'ai vécu aux côtés de ces extraordinaires, c'est tellement fort, tellement riche. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je crois que pour moi, l'aventure va s'arrêter là. Et même si j'adore cette phrase digne d'un Nikos Aliagas du pauvre, elle me fait mal un peu. Tant pis. Je ne regrette rien. C'était bien.